Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit : Allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta, face contre terre, aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu.
Jésus est sur la route de Jérusalem, ce qui veut dire que Jésus monte vers sa passion, vers sa mort et sa résurrection, vers sa Pâque. D'ici 2 semaines à peu près, il sera livré aux chefs religieux pour qu'il soit condamné par Pilate, crucifié. Il traverse pour aller à Jérusalem, il traverse la Galilée, la Samarie, et il est justement entre la Galilée et la Samarie que dans un village, avant d'entrer dans le village, 10 lépreux viennent à sa rencontre. La lèpre, c'est quelque chose de terrible. La lèpre, c'est quelque chose qui, d'abord, est une maladie mortelle, une maladie épouvantable, affreusement contagieuse, une maladie qui fait pourrir quasiment le corps, la peau meurt peu à peu, les nerfs se dégradent jusqu'à mourir, on devient insensible, et puis il y a des parties du corps qui tombent, qui... La lèpre est une maladie terrible dont autrefois on ne savait pas guérir, sauf par miracle. Aujourd'hui, on sait la guérir. Ce qui manque souvent, c'est de l'argent. C'est pour ça qu'on fait la quête chaque année pour les lépreux. Il n'y a plus de lèpre chez nous. Il y en a encore beaucoup en Afrique, dans les pays pauvres. Et la lèpre était, en Israël, comme dans beaucoup d'endroits, considérée comme une maladie impure et qui était une conséquence directe du péché. Et ceux qui étaient frappés par la lèpre étaient exclus, ne pouvaient plus entrer dans la ville, ils vivaient comme des parias, rejetés de tous. Et la loi leur imposait d'aller voir les prêtres pour constater la guérison, si par hasard la guérison intervenait, ou pour constater la permanence de la maladie. Ces lépreux viennent à Jésus et en se prosternant, s'arrête à distance et lui crie : Jésus, Maître, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, en grec c'est eleison. Prends compassion de nous, prends pitié de nous, prends miséricorde pour nous. C'est une prière qu'on adresse qu'à Dieu. Autrement dit, ils avaient entendu parler de Jésus, tout le monde dans le pays avait entendu parler de lui, et sentent instinctivement, peut-être inspirés par l'Esprit Saint, qu'il y a dans cet homme une force extraordinaire, une force qui n'est pas tout à fait humaine. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Et à cette vue, Jésus leur dit : Allez vous montrer au prêtre. Et en cours de route, ils furent purifiés. C'est très étonnant quand même la manière de faire de Jésus. Jésus exige d'eux un acte de foi extraordinaire. Allez vous montrer aux prêtres. Ben oui, mais on n'est pas guéri. C'est sur la route seulement qu'ils découvriront qu'ils sont guéris tout d'un coup. Je pense à l'évangile des noces de Cana, où Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres et portez-en au maître du repas. Mais non, ce n'est pas de l'eau qu'il veut, c'est du vin. Portez-en au maître du repas. Et c'est seulement en servant qu'ils s'aperçoivent que c'est de l'eau. Ils ont obéi et cette obéissance leur mérite le miracle. Ça, c'est une première réflexion très importante pour nous. Est-ce que nous croyons que Dieu peut tout ? Est-ce que notre prière est une prière sobre ? C'est-à-dire quand Jésus nous dit « va, fais, vis ». Est-ce que nous sommes prêts à accomplir un acte de foi, à poser un acte de foi pour dire « oui, le Seigneur me guérit ». Peut-être pas de la manière que j'attendais, peut-être pas comme j'imaginais, mais le Seigneur intervient pour moi, le Seigneur intercède pour moi, le Seigneur fait pour moi ce que je lui demande. Je suis très impressionné de la foi de ces 10 lépreux. Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres, parce que c'est les prêtres qui vont constater votre guérison au temple. Les lépreux sont en dehors de la ville, parce qu'ils sont lépreux, et Jésus les fait entrer dans la ville jusqu'au temple, c'est-à-dire qu'au cœur de la présence de Dieu, et là seulement, ils pourront se montrer aux prêtres pour que la guérison soit constatée. Et de fait, ils sont guéris. Jésus, lui, est au temple, c'est même lui le temple du Seigneur. Il sait qu'il monte à Jérusalem, mais du temple, il sortira de la ville pour être crucifié en dehors de la ville, parce que c'est lui le lépreux. La lèpre représente en réalité nos péchés, et Jésus portera le péché du monde. Jésus sera identifié au péché, de sorte qu'il doit mourir en dehors de la ville, comme le lépreux rejeté de tous. À l'écart. Seule sa mère, quelques femmes et Jean se tiendront à côté de lui, qui est crucifié entre deux brigands. Les lépreux vont être réinsérés dans la vie sociale. Jésus, lui, est exclu et tout le monde l'abandonne. Il doit y avoir dans le cœur de Jésus, il faut essayer de pénétrer le cœur de Jésus. Il doit y avoir dans le cœur de Jésus, au moment où il dit à ses hommes « Allez vous montrer au prêtre », il doit y avoir une espèce de grand bouleversement. Jésus voit par avance ce qu'il va vivre, il le sait. Saint Luc dit quelque part « Il a durci son visage », c'est-à-dire il a affermi son visage, il est décidé, il sait qu'il marche vers sa mort et que sa mort est une mort d'amour parce qu'il veut porter devant Dieu tout le péché des hommes. Nous savons aujourd'hui que la maladie n'est pas directement liée au péché, en tout cas pas liée au péché personnel. La maladie est une conséquence indirecte du péché de l'humanité. Oui, le péché de l'humanité a bouleversé le projet de Dieu, a bouleversé la création, et le désordre a introduit aussi la maladie. Ce n'est pas parce que tu es pécheur, toi, que tu es aveugle, ou que tu es estropié, ou que tu es malade, mais c'est parce que le mal est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde par effraction. Et Jésus ne veut pas tant guérir la maladie physique que la maladie du cœur, parce que c'est celle-là la vraie maladie. Et autant Jésus fait aujourd'hui encore des miracles, nous en sommes témoins. Mais le vrai miracle, c'est la guérison du cœur, cette guérison qui fait que nous sommes de nouveau en Dieu, et même mieux qu'avant. Avant le péché, nous étions créatures devant le Créateur. Par la grâce de la résurrection du Seigneur et de sa passion, par la grâce de sa miséricorde, nous sommes introduits au-dedans de la divinité, nous sommes élevés à la hauteur de la divinité. Par l'Eucharistie que nous recevons, je suis en lui et lui en nous, en nous, en moi. Ça, c'est le miracle que Jésus réalise. Est-ce que je viens à la messe le dimanche ou en semaine avec cette certitude, avec cet acte de foi que Jésus accomplit pour moi ce miracle, que je suis sauvé, que je suis saint dans son regard? Je ne suis pas sûr que nous ayons suffisamment de foi. Alors, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revient sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il crie, il saute, il rend gloire à Dieu par des cris et des hosanna, des alléluia. Et cet homme était un samaritain, c'est-à-dire un ennemi d'Israël, c'est-à-dire un étranger, celui que Jésus avait déjà loué, parce que c'était le seul qui s'était arrêté à côté du pauvre malheureux qui était dans le fossé, malade et roué de coups. Manière de dire aux pharisiens, manière de dire à ceux qui l'écoutent, que c'est pas parce qu'on est dans le peuple élu, c'est pas parce qu'on est parmi les choisis de Dieu, c'est pas parce qu'on est baptisé, pour nous qui sommes chrétiens, qu'on est instantanément sauvé. C'est important parce que cet homme qui revient vers lui, vers Jésus, Jésus le relève. Relève-toi, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres sont guéris, mais ne sont pas sauvés. On peut bien être guéri physiquement sans être sauvé. Malheur à moi si je ne rends pas grâce. Malheur à moi si je suis ingrat, je pourrais bien manquer le salut. C'est la gratitude, c'est l'action de grâce qui ouvre mon cœur pour recevoir encore. Vous rappelez cette phrase de Jésus encore, « Celui qui a, on lui donnera encore, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Celui qui a, c'est celui qui rend grâce. Et cette action de grâce va élargir son cœur, alors il pourra recevoir encore et encore. Celui qui n'a pas, c'est-à-dire celui qui se ferme parce qu'il n'est pas dans l'action de grâce, il s'enferme sur lui-même dans la possession de ce qu'il a reçu, alors il perd même ce qu'il a. Par le fait qu'il n'est pas ouvert, il ne peut plus recevoir cette grâce que Jésus voudrait lui donner. Et les 9 autres, où sont-ils? Cette question est terrible pour nous. Est-ce que nous savons rendre grâce? Est-ce que nous pensons à rendre grâce? Nous sommes facilement à réclamer, de fait, nous souffrons, je sais bien que, je le sais, nous le savons tous, la vie est dure, la vie est difficile. Et parfois nous vivons des choses qui sont bouleversantes et écrasantes pour certains d'entre nous. Des souffrances physiques ou morales qui sont terribles. Jésus le sait, il est mort pour ça. Mais il est mort surtout pour nous sauver. Pourquoi certains sont-ils guéris et d'autres pas? Ah, mystère de Dieu, mystère de Dieu. Et nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est que quand quelqu'un est guéri, c'est parce que Dieu veut conduire à la foi. Cette guérison est une étape vers la foi. Mais ce qui est important, c'est la foi dans le salut. C'est là qu'il faudrait reprendre saint Paul. Oui, j'accepte, moi, de souffrir avec lui. J'accepte de souffrir et j'endure la souffrance pour lui, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus. C'est vrai, je peux accepter de porter une souffrance par lui, avec lui, en lui. Je peux unir ma souffrance à la sienne pour porter avec lui. Saint Paul continue, si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Attention là, c'est pas que Dieu va nous repousser. Si nous le rejetons, nous avons le droit de refuser. Mais Dieu tiendra compte de notre liberté et Dieu ne s'imposera pas. Celui qui a, on lui donnera encore. Celui qui n'a pas, qui ne veut pas avoir, Dieu ne le forcera pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu le repousse. D'ailleurs, la phrase suivante le montre. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole parce qu'il ne peut pas se rejeter lui-même. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Si nous manquons de foi, alors nous pourrions faire comme les apôtres dimanche dernier qui disaient à Jésus, « Seigneur, augmente en nous la foi. » Augmente en nous la foi. Oh la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cet arbre-là, déracine-toi, il irait se jeter dans la mer. Je demande deux choses au Seigneur aujourd'hui. La première chose, c'est la foi suffisante pour faire le pas que je dois faire aujourd'hui. Tous mes problèmes ne sont pas résolus aujourd'hui. Je suis avec un tas de questions, peut-être avec un tas de maladies ou d'épreuves. Chacun ses épreuves. Nous en connaissons quelques-unes. Beaucoup sont cachées, beaucoup nous sont inconnues. Mais je sais que tout le monde porte ses épreuves. Je demande au Seigneur la foi pour faire le pas aujourd'hui, comme ces lépreux qui font le pas d'aller se montrer au prêtre, parce que je crois que Dieu est avec moi. C'est en même temps la foi et l'espérance. L'espérance, c'est pas « ça ira mieux demain ». L'espérance, c'est « demain, Dieu sera avec moi comme il est aujourd'hui ». La foi me fait avancer sur la route qui est la mienne aujourd'hui. Mais en même temps, je dois rendre grâce. C'est la deuxième leçon pour aujourd'hui. L'action de grâce, un cœur d'action de grâce, une vie d'action de grâce. Seigneur, tu es grand et je te loue pour ce que tu as fait pour moi, parce que je sais que tu m'as sauvé. Peut-être m'as-tu guéri de telle ou telle maladie. Quelques-uns d'entre nous pourront le dire. Mais je sais, au-delà de cela, je sais que tu m'as sauvé. Je sais que tu me sauves aujourd'hui, moi qui suis pécheur. Moi qui suis pécheur chaque jour, je sais que mon péché est noyé et dissous dans la puissance de ta miséricorde, dans l'océan de ta miséricorde. Depuis quelques jours, nous avons accroché ici, derrière, le tableau de la miséricorde, le tableau de Jésus miséricordieux, pour que nous puissions, selon la consigne de Jésus qu'il a donnée à Sainte Faustine et relayée par Saint Jean-Paul II, pour que nous puissions tous ensemble et d'un seul cœur, et chacun de nous personnellement, dire à Jésus, Seigneur, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Mais pour que nous puissions penser aussi, chaque jour que Dieu fait, de remercier le Seigneur, de rendre grâce. Oui, Seigneur, ta miséricorde a fait des merveilles. Éternelle est ta miséricorde. Avec Marie, nous entonnerons le cantique d'action de grâce. Il a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le Seigneur peut tout, il le fait selon sa sagesse qui m'échappe, que j'ignore, mais je peux entrer dans la pensée de Dieu en m'unissant aux souffrances qu'il porte pour le salut du monde. Oui Seigneur, tu es grand, tu es fort et tu nous sauves. Amen.